Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Jean-Marc Daniel, bienvenue.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, auteur de Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale. Plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob et membre du comité éditorial de Pour l'écho, dont la une devrait s'afficher sur votre écran. Voilà. Ça parle des 5 défis du commerce vert, le numéro du mois de décembre. Thibault Langsade, bonjour.
Bonjour.
Président de Lumines, spécialiste du traitement des données, et évidemment, le dividende salarié est un sujet sur lequel vous avez très largement planché puisque vous en aviez été missionné. Et donc, le sujet progresse sacrément en ce moment. Laurent Vronsky, bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, membre du secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité, j'ai encore pas noté, de
stratégique
d'Espérance Banlieue. Voilà. Un jour que je l'enregistre définitivement. D'Espérance Banlieue, ce réseau d'écoles qui a vu le jour il y a maintenant 10 ans, à l'initiative principalement d'anciens chefs cadres du privé et membres de l'entreprise. On est bientôt Noël. Alors, il n'y aura pas de réaction d'auditeur aujourd'hui parce que mon téléphone m'a fait un arrêt cardiaque cellulaire. Donc, pour l'instant, il est un peu en à fond. C'est bientôt Noël et c'est la lettre au Père Noël de Laurent Vronsky pour ouvrir cette émission. J'ai plein d'auditeurs qui m'ont dit quand est-ce qu'il vient avec sa lettre. C'est aujourd'hui. C'est une tradition. Hein. Voilà.
Alors, vous noterez que pour être sûr que le Père Noël honore ma demande, je m'y prends à l'avance.
Oui.
Hein ? Bon. Je veux être sûr que le Père Noël, s'il y a des coupures de courant, au moins qu'il ait pu lire ma lettre.
Et c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui. Hein. C'est déjà un bon début.
Cher Père Noël, la tradition a du bon, pour tirer ton traîneau, tu utilises toujours tes rennes qui n'ont besoin que de fourrage. Certes, celui-ci a augmenté, mais dans des proportions somme toute raisonnables comparées au prix des énergies dont tu as besoin pour faire tourner ta fabrique de cadeaux. Pour ce Noël, tu pourras encore t'éclairer à l'électricité, utiliser ta machine à emballer les cadeaux qui fonctionnent au gaz, comme ton chauffage. Cependant, pour Noël 2023, vu les prix exorbitants qui te sont demandés dès le 1er janvier, tu te demandes si tu ne vas pas tout simplement déménager ta fabrique de cadeaux dans un pays où l'énergie est abordable. C'est un comble. À l'heure où l'on parle de relocaliser la fabrication des cadeaux, des emballages, des rubans, cette crise de l'énergie sans précédent risque de mettre à mal tous les efforts entrepris dans ce sens. Je sais que le gouvernement étudie des solutions pour réduire l'impact des augmentations stratosphériques des prix de l'énergie sur ta fabrique de cadeaux, mais il ne peut pas tout et je doute qu'il y parvienne. Tout d'abord, il est lié vis-à-vis de toi par une clause de non-concurrence. Il n'est pas le Père Noël, même s'il l'oublie régulièrement et qu'il a souvent tendance à se prendre pour toi. Ensuite, parce qu'il a tellement dépensé, aidé, subventionné, qu'il est devenu exsangue et a accumulé une dette de près de 3000 milliards d'euros. Alors, vu les taux d'intérêt qui remontent, le financement de celle-ci peut vite devenir insoutenable. Cher Père Noël, je sais que tu as beaucoup de fidèles qui aimeraient que ce soit tous les jours Noël et qui croient en l'argent magique qui tombe du ciel. Or, celui-ci tombe de nos poches, car malheureusement, l'État ne crée pas de richesse et on ne peut pas inlassablement accroître la pression fiscale sur tes contribuables, les inciter à travailler plus, à prendre des risques et hypothéquer l'avenir de leurs enfants en leur léguant une dette gigantesque. Comme tu le sais, celle-ci a servi en grande partie à payer les fins de mois et pas à investir dans l'avenir. Donc si l'on continue à augmenter tes impôts, comment vas-tu faire pour moderniser ta fabrique de cadeaux et répondre aux défis qui l'attendent ? Une fabrique plus verte, même si ta couleur est le rouge. Rapatrier la fabrication des cadeaux dans notre pays. Employer de nombreux lutins et absorber les hausses de coûts à deux chiffres. Aussi, pour donner le bon exemple, ma liste de cadeaux est plutôt frugale et je ne t'en demande que deux. Premier cadeau.
Attention au micro, Laurent.
Premier cadeau. Offrir à nos dirigeants politiques le courage de poursuivre les réformes structurelles dont notre pays a tant besoin. Rendre notre fiscalité plus lisible, plus stable et moins décourageante, avec en corollaire la réduction du train de vie de cet État ventripotent qui se traduit par une dette qui ne cesse d'augmenter. Substituer le quoi qu'il en coûte par le mieux qu'il en coûte. Deuxième cadeau. Nous rendre plus agiles en réduisant le poids et le nombre des lois, des réglementations, des normes, des codes qui ne font que s'accroître et transforment peu à peu nos chefs d'entreprise en experts administratifs et en les détournant de leur fonction première qui est la création de richesses pour le bien de tous. Tu vois, Père Noël, je ne te demande pas grand-chose. Mais ces deux cadeaux, je te les demande depuis très longtemps, tout comme les 3,5 millions de chefs d'entreprise de notre pays, car les défis qui nous attendent nécessitent encore plus d'agilité et de résilience que par le passé.
Ça vous a plu,
bravo,
Jean-Marc
bravo,
Daniel.
Ça vous a plu. Oui, non, très beau texte. J'espère qu'il sera sur le site de la.
Je sais pas si
non, enfin, et, non, il faut le diffuser. Et puis ça prouve que notre ami Laurent a bien fait d'écrire au Père Noël parce que manifestement, il croit encore au Père Noël. vu ce qu'il demande, il croit encore.
Mais ça veut dire que vous faites partie de ceux qui sont devenus fatalistes, Jean-Marc Daniel, et qui disent que de toute façon, on peut effectivement répéter les mêmes choses depuis 10-15 ans, depuis les premiers rapports même du début de la Ve République. Voilà. Et ça ne sert à rien.
Non, je ne suis pas fataliste.
Si.
J'attends toujours le réformateur et le Mendès France de demain. Tout le monde parle de Mendès France, mais personne ne fait ce qu'il a fait. Et pour une raison simple, je pense que quand on discute un peu avec des hommes politiques, ils disent oui, Mendès France c'est bien, mais il est resté que 6 mois au pouvoir. Et donc, sauf que ces 6 mois ont quand même marqué l'histoire. Donc, j'attends l'homme politique qui acceptera de rester 6 mois au pouvoir et de refaire de ce pays un pays à la fois dynamique et prospère.
Le dividende salarié, Thibault Lanxade, où en sommes-nous? Parce que bon, là, il y a Renaissance qui s'est emparée du sujet de manière un peu inattendue. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent faire. Il y a les partenaires sociaux qui discutent. Si on fait un état des lieux de ce dossier que vous connaissez par cœur.
Pour le moment, il faut essayer de comprendre ce que veut dire le dividende salarié. Parce que ça part un peu dans tous les sens et maintenant chaque organisation politique est en train de le théoriser. De façon très concrète, le gouvernement a donné une feuille de route aux partenaires sociaux pour ouvrir une discussion. Mmh. Cette discussion se transforme en négociation et les négociations devraient se terminer au mois de janvier.
Mmh. Bon. C'est ça.
La logique dans notre pays, c'est que quand on mandate les partenaires sociaux, s'il y a un accord, cet accord doit être transposé dans la loi. Ça, c'est les lois Seguin. Et donc, il faut maintenant laisser aux partenaires sociaux le soin de négocier. En fonction de cette négociation, si elle est ambitieuse, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas transposé tel quel dans la loi. Si ça manque d'ambition, et qui jugera le manque d'ambition, ce sera les politiques, probablement les Français au travers des mandats qu'ils ont donnés aux politiques. Et là, il y aura une transposition dans la loi, mais qui sera probablement sous forme d'amendement, parce qu'on voudra customiser un certain nombre de propositions qui auront été faites dans le cadre de la négociation. Bon, donc il faut attendre le mois de janvier, sur un texte assez précis, qui incarne le dividende salarié, qui est comment on fait pour distribuer davantage sur la base de résultats que produit l'entreprise, et comment on fait en sorte que ce soit toutes les entreprises qui soient mises à contribution. C'est à peu près ça, le texte de cadrage qui a été donné. Donc il faut attendre maintenant la fin du mois de janvier. Néanmoins, certains partis politiques, comme Renaissance, est en train de marquer le pas, ou plus exactement, d'envoyer une fiche d'objectif pour dire « attention, si la mesure de négociation n'est pas suffisamment ambitieuse, alors on sera en capacité de reprendre la main ». C'est ça qui est envoyé comme message derrière. Maintenant, les éléments importants du dividende salarié, c'est de partir de la participation. On ne va pas mélanger les autres dispositifs, c'est de partir de la participation et de faire en sorte que cette participation, on puisse l'étendre à un maximum d'entreprises et faire en sorte que les entreprises qui versent des dividendes puissent également verser de la participation.
Soit obligé de verser de la participation.
Bien sûr.
Oui, pas puisse également, soit obligé.
Non, soit obligé, pardon.
Vous avez raison. Parce que, alors, il y a eu déjà une première réaction de pas mal de chefs d'entreprise que j'ai eu autour de ce plateau, notamment Christian Poyot qui disait utiliser le mot dividende.
Oui, mais.
Alors, mais. Moi, j'ai essayé de lui dire que c'était plus un terme un peu marketing.
Non, c'est pas un terme marketing. Il y a un moment
après, où. Vous réagirez,
j'adore Christian. Mais maintenant, quand il explique que c'est un oxymore. Il se trompe, et je l'invite tout simplement à regarder la loi, le code du travail, on peut considérer qu'il est mal fait, on peut considérer qu'il est trop volumineux. Chapitre 3 du code du travail, le dividende travail regroupe les instruments d'intéressement et de participation. Demain,
le terme
est déjà dans la loi, c'est le dividende travail. Et d'ailleurs, pour ceux qui diraient « oui, mais ça date du général de Gaulle, et donc il faut revoir et dépoussiérer », le terme dividende travail a été introduit par un député, Patrick Ollier, en 2008, au moment où Nicolas Sarkozy a mis en place le bouclier sur le pouvoir d'achat.
D'accord.
Et donc, cette volonté de considérer que c'est un oxymore, c'est une idiotie, parce que c'est déjà dans la loi. Maintenant, le fait de l'appeler dividende salarié, à partir du moment où on y adjoint la prime partage de la valeur, et moi je dis que pour les entreprises...
C'est la prime Macron, la prime partage de la valeur.
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, où il faut de l'agilité, de la flexibilité, de la vélocité, eh bien, il n'est pas forcément utile d'avoir des mécanismes d'intéressement ou de participation. Et s'il y a des résultats à distribuer, il faut que ce soit à la main du chef d'entreprise au travers de cette prime.
Donc vous mettez la limite à 11. Comment vous accueillez cette proposition, Laurent Wronski, qui devient une... D'accord, on comprend qu'il y a le sujet du partage de la valeur, mais là, dans l'idée, et c'est bien comme ça que Renaissance l'a présenté, une obligation, donc ça veut dire qu'Hervor a l'obligation de verser de la participation à ses salariés, dans la mesure où les résultats sont là, et qu'un dividende est versé aux actionnaires.
Alors d'abord, je voudrais rappeler que je suis le secrétaire général d'une association qui s'est créée sur ce thème, sauf que le terme de dividende salarié n'existait pas.
Et les BPCE.
Et on appelait ça le partage des fruits de la croissance. Et là, on est en 97, hein, on n'est pas en 2022. Donc c'était un petit moment que, je dirais, on débat sur ce sujet. Je veux dire qu'on a vraiment été très 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 moteur pour faire cette espèce de révolution culturelle dans le capitalisme français et partager, si vous voulez, les fruits de la croissance avec les salariés. Donc ça, déjà, pour nous, ça n'est pas un exercice nouveau. Le mot-clé dans tout ce que vous avez dit, c'est le mot obligatoire.
Voilà, bah exactement. Voilà.
Et là, si vous voulez, quand on commence à utiliser ce mot, on rentre dans un territoire de contraintes, dans un territoire de seuil, dans un territoire qui est souvent hors sol par rapport à la réalité des entreprises. Et donc, nous, notre position par rapport à ça, on a très largement planché sur le sujet. J'invite d'ailleurs les auditeurs qui sont intéressés. Nous avons fait un magnifique position paper sur le site de Croissance Plus. Vous verrez toutes nos propositions. Nous, on est d'accord avec tout. Simplement, ce que l'on propose, c'est de rendre plus lisible, plus flexible et plus intéressant les outils qui existent déjà. Je vais prendre un exemple très simple. L'un des problèmes majeurs auxquels nous allons être confrontés, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, dans les 5 ans à venir, c'est la transmission des PME. Et il faut savoir que vous avez aujourd'hui énormément de PME qui ferment leurs portes parce qu'il n'y a pas de repreneurs. Donc déjà, quelque chose qui serait très vertueux, c'est de faciliter la transmission des entreprises aux salariés.
Transmission des entreprises aux salariés. Bon. C'est un peu un autre sujet, là, Laurent.
Mais c'est pas vraiment un autre sujet. Parce que si vous voulez, quelque part, quand on parle de partage des fruits de la croissance, quand vous avez des gens qui ont contribué au succès d'une société pendant des années et des années, c'est-à-dire qui mieux qu'eux connaît l'entreprise,
je suis d'accord, oui.
Donc, j'ai pris cet exemple-là parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça devient un sujet un peu politique, enfin, d'ailleurs, pas qu'un peu. Et j'espère simplement que si on dit aux partenaires sociaux, mettez-vous autour d'une table et discutez et trouver une solution intéressante pour les deux parties, c'est pas pour faire un simulacre de concertation, et qu'après le gouvernement dit, bah écoutez, si vous n'êtes pas en train de faire du playback par rapport à ce que moi j'ai concocté il y a 6 mois, eh bien dans ces cas-là, ou vous repasserez jusqu'à ce que ça, que les deux copies soient conformes, ou alors c'est moi qui prends la main.
Il n'y aura
c'est
pas
ça
d'accord.
C'est ça qui me dérange.
Il n'y aura pas d'accord.
C'est le
parce
côté
que...
contraignant. Bon, il faut de la souplesse.
Vous réagirez dans un instant, Thibault Langsad. L'accord, c'est tous les syndicats veulent du salaire et pas des participations, des primes. Mais voilà,
c'est clair.
Et là, ils sont privés là-dessus. Et globalement, les organisations patronales sont contre le côté obligatoire. Comment vous accueillez cette proposition qui est en train de s'incarner? Alors, on a vu ce débat. Moi, je vous ai dit qu'elle verrait le jour. Vous me disiez, Jean-Marc, je pense pas.
Non, mais ça verra jamais le jour.
Ah, bon.
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement, Renaissance le met à son programme parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée. Et donc, c'est une façon de renvoyer la balle dans le camp des Républicains. Et comme les Républicains ne voteront pas cette disposition ne verra jamais le jour.
Ils ne la voteraient pas, les Républicains.
Mais parce que les Républicains sont quand même dans une situation où ils vont aller devant des électeurs. Et devant les électeurs, ils ne peuvent pas défendre ce genre de choses devant la petite et moyenne entreprise qui s'incarne beaucoup dans leur électorat. Alors après, sur dividende...
Pas sûr qu'il n'y ait pas de soutien libre.
Bref. Dividende salarié, ça reste un oxymore. Simplement, on apprend que les juristes qui autrefois parlaient latin ne parlent même plus français. Bon, très bien, c'est une découverte, mais c'est un oxymore. Concrètement, faire partager la croissance sur le plan strictement économique, la croissance, c'est de la productivité, et le salaire est là pour rémunérer le travail à hauteur de l'évolution de la productivité. Le salaire est égal à la productivité marginale du travail. Et le dividende rémunère le capital à hauteur de la productivité marginale du capital. Et je pense que en rester à ces règles, d'ailleurs, dans un cadre concurrentiel qui permette d'arriver à l'optimum de la croissance, ce qui se démontre, reste la chose la plus saine à assumer. Alors après, concrètement, est-ce que ça correspond aux attentes de la population? Laurent l'a dit, est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, que les salariés soient non seulement associés à l'entreprise, mais encore plus associés à l'entreprise, en étant eux-mêmes les propriétaires de l'entreprise?
Actionnaire. Et à ce moment-là, c'est un dividende.
Donc, est-ce que le rachat des entreprises par les salariés fonctionne? Réponse, non. Est-ce que le statut de coopérative qui existe, si on veut véritablement que les salariés contribuent, soient associés, organisent leur vie autour de la vie de l'entreprise, on crée une coopérative? Est-ce que les coopératives se développent? Réponse, non. Les salariés n'attendent pas ça, ils attendent que leur travail soit reconnu comme tel, et ils attendent que les patrons soient des patrons. J'en reste à la formule de 1936 de Claude-Joseph Gignoux, patron, soyez des patrons. Assumez le fait que vous êtes là pour gérer une entreprise, pour faire des profits, et les salariés en bénéficieront de façon ultime, parce que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Et donc, distribuer comme ça, à court terme, des profits qui ont vocation à générer de la croissance et des investissements, c'est à mon avis relativement démagogique.
Le débat est ouvert. Thibault Langsade, par rapport à ce qui a été dit sur le caractère obligatoire et puis les remarques de Jean-Marc Daniel.
Sur le caractère obligatoire, les entreprises de plus de 50 salariés, la participation est obligatoire. Donc on pourrait quand même se poser la question de savoir pourquoi ça ne l'est pas pour les entreprises qui sont en dessous. Après, c'est une question
d'agilité, évidemment.
Une question d'agilité. Néanmoins, il faut, dans ces cas-là, rendre plus souple la formule de participation qui est complexe, on va dire, dans son élaboration, pour qu'il y ait une meilleure prévisibilité pour le chef d'entreprise. Néanmoins, un chef d'entreprise qui, de PME, il faut être très concret, aura à augmenter sa masse salariale d'à peu près 10% dans les deux prochaines années. Et donc, soit il utilise les mécanismes qui sont à s'emporter pour pouvoir, on va dire, contrer cette augmentation en utilisant l'intéressement et la participation, et auquel cas, il augmentera sa masse salariale de 5%, soit il fait fi des instruments qui, aujourd'hui, sont proposés.
Ce sont des hausses de salaire.
Exactement. Bon. Néanmoins, ce sont des mécanismes. Après, moi, je mets de côté un débat qui est évidemment l'actionnariat salarié, et qui est optimum, qui est efficient, mais qui concerne qu'une poignée d'entreprises, qui concerne les entreprises qui sont à fort développement et qui ont commencé leur activité par, on va dire, se faire financer par l'extérieur, ou les entreprises du SBF 120 qui, par définition, sont, on va dire, ouvertes à ce genre de dispositif. Mais il y a une grande majorité des entreprises françaises, de PME, qui sont dans l'incapacité d'ouvrir leur capital, de mettre en place des BSPCE ou de donner des agas. Une grande majorité des entreprises qui n'ont pas la capacité de pouvoir le faire, tout simplement parce qu'elles se sont protégées depuis 30 ans face à une pression fiscale démesurée pour organiser l'entreprise fiscalement de telle façon qu'elles ne puissent pas ouvrir leur capital. Enfin, en France, on est quand même le seul pays au monde où cette notion de dividende pose problème. Il y a un moment où on peut tout de même se poser la question, Jean-Marc Daniel, que je sais que vous êtes un apôtre du qui fait que tout travail mérite salaire, et l'inverse
salaire
également.
Travail. Oui.
Mais il y a un moment où il faut, cette notion d'apport en industrie qui vous est chère, elle doit être mieux rémunérée. Et l'apport en industrie, elle n'est pas uniquement rémunérée par le salaire. L'apport en industrie, qui est cette surcroissance de valeur, elle doit être également prise en compte par le versement d'un dividende salarié, par une participation ou un intéressement.
On marque une pause.
Non, juste un mot. Elle est dans le salaire. Le salaire, c'est la productivité marginale du travail. L'efficacité du salarié.
Mais pas quand les salaires sont pas réajustés.
Pas quand les salaires sont pas réajustés. Mais alors que les entreprises réajustent les salaires, pas qu'elles mentent.
Après, il y a le débat de savoir comment est-ce qu'on ajuste année par année l'ensemble des revenus et du pouvoir d'achat d'un salarié en fonction de la bonne ou de la mauvaise année.
Mais ça ne modifie pas la qualité de son travail.
Non, bien sûr. Mais on remarque une pause. On vous réagira dans un instant. On évoquera là le rapport du Shift Project et puis la menace de S&P d'abaisser la note de la France. Souvenez-vous, quand on est passé de AAA à AA, on pensait que c'était Armageddon. Finalement, ça ne l'a pas été. Bon, il n'y a quasiment plus de pays AAA aujourd'hui. Mais enfin, ça reste quand même un moment important quand on voit sa note abaisser. A tout de suite.